Plaisir qu'on serait retrouvé là en espérant un peu de fraîcheur dans cette ville étouffante, accablante, époustouflante pas tant que ça d'ailleurs, qu'est Las Vegas. C'est là où nous sommes encore aujourd'hui, et là encore on va aller dans la périphérie de cette ville avec l'immobilier. Ça vous dit quelque chose, l'immobilier aux États-Unis? C'est la grande affaire, bien évidemment. C'est ça qui a engendré cette crise depuis de nombreuses années. C'est 2005, 2006, 2007. Mais l'explosion, ça a été 2007 avec toutes les conséquences que vous savez ou vous ne savez pas forcément. On n'arrive pas bien à mesurer les conséquences économiques, financières, etc., mais les conséquences aussi dans la vie quotidienne de millions. On considère qu'il y a 10 millions de familles qui ont été expulsées quand même aux États-Unis. Cette conséquence sociale est terrifiante, sans parler évidemment du chômage, du pouvoir d'achat, de cette guerre qui n'en finit pas en Afghanistan, etc., etc. C'est donc un drôle de climat dans lequel nous nous trouvons, dans cette étrange et suffocante ville qu'est Las Vegas. On vous avait présenté il y a exactement 4 ans une série, à peu près au même moment pour les élections précédentes, qui s'appelait « De Main Street à Wall Street », c'est-à-dire de Cleveland, Ohio, dans l'Ohio, jusqu'à Wall Street et les beaux quartiers, les belles banlieues de New York en opposition. Et à Cleveland, on s'était intéressé de très très près à cette histoire d'évacuation, d'expulsion des maisons, ces gens qui se font virer tous les jours et le shérif qui tous les jours monte dans sa bagnole avec ses hommes et qui vont virer des gens, qui vont vérifier qu'ils ont foutu le camp, qui va mettre des avis sur les portes des petites maisons de banlieue comme ça. C'était assez pathétique. Et on va voir ce que c'est devenu quatre années plus tard, après le passage, le mandat d'Obama, de ces 4 années. Qu'est-ce que c'est devenu, cette histoire immobilière? C'est l'essentiel de notre sujet du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour, c'est Marie de l'Eure en Haute-Normandie. Je voudrais répondre à l'auditeur qui pense que les céréaliers se font des couilles en or parce que le prix du blé et des aides-packs sont élevés. Alors moi, je voulais lui répondre que je suis moi-même agricultrice céréalière en système conventionnel. Je tiens à préciser à cet auditeur que si le blé varie, il peut peut-être se pencher sur le marché du blé et approfondir pourquoi le blé est arrivé à ce tarif. Je rappelle que le marché du blé est un marché très spéculatif, c'est aussi un marché mondial, donc nous ne sommes pas les seuls acteurs sur ce terrain, je dirais même qu'on est carrément en bout de chaîne, et qu'il y a eu des pressions spéculatives dues notamment à un temps sec et chaud en Russie, qui a menacé la récolte, ainsi que des craintes de perte de rendement en maïs aux États-Unis, donc ce qui a fait effectivement grimper le blé. Je peux aussi lui confirmer que si le blé augmente, eh bien tout le reste augmente, c'est-à-dire le fioul, les intrants, même si effectivement on en met de moins en moins, eh bien ils sont de plus en plus chers. La main-d'œuvre augmente également, malheureusement. Ou heureusement en tout cas, pour qu'on puisse se rémunérer. D'autre part, nous les agriculteurs, nous préférerions de loin être rémunérés au juste prix, c'est-à-dire à la valeur juste de notre travail, ce qui n'a pas été le cas durant des années. Et on était quand même bien contents, il faut le reconnaître, de toucher des aides-PAC. Je tiens aussi à préciser que s'il n'y avait pas eu des aides-PAC pendant un certain temps, je pense que la ferme France ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui et que nos rayons de supermarché ne ressembleraient pas du tout à ça non plus. Quant aux agriculteurs qui vont investir en Roumanie, c'est une extrême minorité, extrême, et qu'on ne peut absolument pas généraliser sur ces quelques personnes qui vont investir en Roumanie. Voilà, merci, au revoir.
Oui, salut Daniel, salut aux AMG, Stéphane de Terrenonne dans l'Oise. Donc là, je suis en train de suivre une émission de télévision sur le CRS public. Et il y a notamment Laurence Parizeau qui est invitée. Et Yves Calvi lui a posé la question, voilà, qu'est-ce que vous pensez de la fermeture de l'usine de Provins dans les Ardennes? Donc c'est Electrolux, hein, donc je précise, hein, donc qui est une usine étrangère. Alors elle dit, vous savez, les étrangers, qu'ils soient allemands, américains, etc., Non,